Bonjour auditeurs de Radio Campus Rennes, bienvenue sur Courant d'air, l'émission qui vous fait voyager. Je suis Camille et je vous présente notre dernier numéro avant les vacances, dans lequel nous retrouvons Guillaume qui nous parlera de son séjour d'études à Istanbul. Puis je vous présenterai Hans, artiste berlinois dont l'œuvre est marquée par la Bretagne et en particulier l'île de Groix. Avec Enora, nous avons rencontré Guillaume. Nous partons pour la première partie de ce numéro à Istanbul. Istanbul. Bonjour Guillaume, ravi de t'avoir avec nous. Istanbul, une ville entre deux continents. Peux-tu nous parler de ton voyage de 3 mois?
En effet, donc je suis parti à Istanbul pendant 3 mois dans le cadre d'un mémoire de fin d'études, un mémoire d'histoire militaire qui portait donc sur l'intérêt stratégique des détroits et leur défense de l'Antiquité à nos jours.
Mais alors, du coup, dans ce contexte-là, en fait, tu logeais où ?
Alors, j'étais logé à l'Institut français d'études anatoliennes, qui est dans l'enceinte du consulat général d'Istanbul, dans un quartier qui s'appelle le quartier de Beyoğlu, qui est le quartier traditionnellement européen d'Istanbul. Et donc j'étais à ce qu'on appelle l'IFEA qui me fournissait une base documentaire solide, notamment avec une bibliothèque très fournie pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Le quartier européen, oui, mais c'est surtout traditionnellement européen, sinon il n'est pas moins turc que n'importe quel autre quartier d'Istanbul maintenant. C'est l'ancien quartier des ambassades en fait.
Est-ce que tu as remarqué sur place une différence énorme avec la culture occidentale malgré le fait que tu étais dans un quartier européen ?
Est-ce qu'il y a une différence culturelle ? Oui et non, elle est marquée parce que c'est une ville très cosmopolite qui doit se côtoyer des communautés religieuses très différentes avec donc des musulmans, des orthodoxes, des catholiques. C'est une ville qui est sur 2 continents, donc l'Asie et l'Europe, et ça se ressent dans les ambiances qu'on peut retrouver, c'est-à-dire que du côté asiatique, on va retrouver plutôt des marchés beaucoup plus communautaires, ambiance petit village de Provence, avec des marchés aux poissons, des petits vieux qui sont dans la rue, assis, qui jouent aux cartes, aux backgammon et qui boivent du thé. Il y a aussi dans la vieille ville un aspect très cosmopolite, très marqué, parce que cette péninsule historique, qui est aussi très touristique bien sûr, a vu passer des Grecs, des Romains, des Byzantins, des Ottomans. Et donc on y retrouve des églises transformées en mosquées, des églises en ruines parce qu'il y en a beaucoup trop à entretenir. Et toute cette ambiance culturelle variée qui se mêle avec cette même ambiance qu'on retrouve en Asie, de ces vieux qu'on retrouve dans la rue, de ces jeunes qui discutent en bas des cafés, etc., qui vont chez le coiffeur, ce genre de détails qui marquent la vie culturelle turque. Qui est particulier parce que encore en plus c'est très touristique, il y a un flot assez important d'étrangers qui se mêlent là-dedans et ça donne une ambiance particulière. Et enfin d'autres quartiers qui eux sont beaucoup plus européanisés parce qu'ils sont construits sur un modèle urbain très européen, des grandes cités d'immeubles, etc.
Mais alors du coup avec une succession de civilisations, là ça doit être vraiment magnifique au niveau architectural.
Au niveau architectural c'est pas si magnifique que ça, dans la mesure où on trouve des monuments, des très jolis monuments impressionnants. Sainte-Sophie, c'est très impressionnant. Le mur de Théodose est très impressionnant. Il y a un patrimoine culturel très riche, mais qui est diffusé dans une ville qui est énorme. Et comme l'habitat ottoman traditionnel était en bois, et ben tout ça était remplacé par des bâtiments en béton, qui en plus s'écroulent au fil du temps parce que c'est dans une zone sismique extrêmement importante. Et du coup, au fur et à mesure des tremblements de terre, ils remplacent. Et du coup, il y a un nombre important de monuments, oui, mais vraiment diffusés dans une ville qui trouve vraiment son charme en se promenant dans les rues. C'est pas avec une première photo d'Istanbul qu'on aime Istanbul. Il faut se balader, il faut voir l'ambiance, il faut sentir les odeurs, marcher aux épices, entendre les mouettes le long du port, ce genre de détails qui font vraiment le charme d'Istanbul. Bien sûr, je suis allé à Sainte-Sophie, c'est un très beau bâtiment, hein, c'était véritablement impressionnant. Maintenant, c'est devenu un musée, alors qu'avant c'était une mosquée et puis bien sûr une église avant. Cependant, le gouvernement turc projette de faire redevenir une mosquée à nouveau, ce qui ne plaît pas bien sûr à la Grèce, et ce qui donne lieu à un épisode assez amusant de savoir qui sera le muezzin de cette nouvelle mosquée, qui donne lieu à des petits conflits d'intérêts entre muezzins.
Tu étais du coup dans une ville très cosmopolite, mais en même temps tu as côtoyé beaucoup les Turcs. Quels étaient tes rapports avec eux, avec la population locale à Istanbul ?
La population turque est très accueillante, très bienveillante vis-à-vis des touristes et des jeunes étudiants, et il y a en plus par derrière une vie étudiante qui est très importante, très marquée. Les rapports étaient globalement bons. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Turquie, la maîtrise de l'anglais n'est pas la même pour tous, et c'est parfois très difficile de communiquer avec les Turcs parce que même les jeunes Turcs de notre génération ne parlent pas l'anglais. C'est pas quelque chose qu'on leur apprend. Donc on a eu surtout des rapports avec des étudiants turcs, des Turcs qui francophones. On en trouve un certain nombre quand même. Nous sommes liés d'amitié avec eux, vraiment liés d'amitié avec une petite poignée de Turcs au final, et surtout à des occasions assez particulière. Par exemple, une de nos bonnes amies turques était tout simplement la serveuse du bar où on allait régulièrement prendre une bière le soir après avoir travaillé. Et au fur et à mesure de notre présence, et ben, on est devenus très copains et on a commencé à passer des soirées ensemble, etc. Donc c'est surtout des rencontres qui sont faites par hasard, parce qu'on a trouvé la bonne personne au bon moment, notamment une fois où nous étions donc dans un bar, une fille qu'on importunait par des mouvements de chaise nous a fait réflexion. Elle parlait très bien français, et la discussion faisant, nous a invités avec quelques-uns de ses autres amis à un concert plus à l'extérieur d'Istanbul, et c'est ainsi qu'on s'est fait d'autres amitiés. Voilà, c'était vraiment une rencontre due au hasard, bon endroit, bon moment. D'ailleurs, ça donne lieu à quelques rencontres amusantes dues au fait que nous sommes francophones, et c'est quelque chose que les Turcs aiment bien entendre parler français, ils aiment bien. Et plusieurs fois dans la rue, quand on parlait avec des amis, les gens s'arrêtaient et écoutaient parler français parce qu'ils trouvaient ça tout simplement joli. Et du coup, c'était assez amusant à voir. Après, on a eu aussi parfois quelques mauvaises rencontres. Je me souviens à la sortie d'un bar, m'être fait reprocher le fait de ne pas être ni turc ni musulman par un Turc lui-même ivre. Et donc c'est aussi le genre de rencontre que l'on peut faire. C'est assez désagréable, mais c'est toujours amusant parfois.
C'est acceptable en fait, du coup, quand même, le fait de boire de l'alcool.
La réglementation vis-à-vis de l'alcool en Turquie n'est pas trop sévère, mais le gouvernement turc essaie d'en limiter la consommation, notamment en faisant par l'interdiction des terrasses, qui ont été de nouveau autorisées, mais pendant un temps c'était interdit. La vente d'alcool interdite après 22h dans les supermarchés, ce genre de détail. Et du coup, comme il y avait pendant un temps plus de terrasses dans le quartier de Beyoğlu, donc le quartier, c'est un quartier avec beaucoup de bars. Il est assez peu habité en fait, et le concept est simple, les immeubles sont remplis de bars, il y en a à tous les étages, et on montait au dernier étage, et après on descendait les étages les uns après les autres, et en bas on recommençait sur un autre étage.
Tu es arrivé à Istanbul dans une période assez particulière parce qu'il y avait beaucoup de répression. Tu as rencontré cette militante qui t'a fait prendre du coup conscience des réalités politiques sur place.
Oui, donc j'ai rencontré cette militante francophone qui nous a amené à ce concert qui était en fait un concert militant en soutien du mouvement de Gezi, puisqu'on est arrivé en fait en Turquie en septembre et le mouvement Place Taksim venait juste de se terminer, et donc on arrivait dans un contexte politique particulier. Qui faisait qu'on trouvait encore partout dans les rues des policiers qui essayaient de bloquer l'accès à la place Taksim, mais donc tout le quartier de Beyoğlu était bardé de policiers, parfois armés, et c'était une ambiance politique particulière.
À coups de tirs de grenades lacrymogènes et de billes en plastique, les policiers anti-émeutes tentent de déloger les manifestants. Après s'être réinstallés au centre de la place Taksim, les forces de l'ordre dispersent dans les rues avoisinantes des centaines de jeunes, dont certains sont casqués et équipés de masques à gaz.
Surtout que quand on est arrivé, la veille ou le lendemain de notre arrivée, la police a tué un manifestant à Antalya. Et du coup, il y a eu des mouvements de soutien et de protestation dans Istanbul qui ont dégénéré en affrontement avec la police, avec tout ce qu'on peut imaginer. La police turque, il va moins mollo dans le contrôle de foule que nos CRS, donc c'était un peu plus musclé. Du coup, ça nous a amené à nous poser la question de savoir ce qui se passait en Turquie. Forcément, parce que c'était vraiment, tout le monde en parlait, quoi. On voyait les policiers dans les rues, il y a des gros titres sur les journaux. Et du coup, on s'est un peu penché sur la question. La situation politique, le régime est très autoritaire. La liberté d'expression, la presse, c'est pas encore ça aujourd'hui. Et récemment encore, l'actualité a montré qu'on avait arrêté le rédacteur en chef d'un grand journal. Et il y a encore des journalistes en prison. Donc c'est un régime autoritaire qui est contesté à Istanbul, même s'il a le soutien de la majorité des Turcs de l'arrière-pays. Et qui est un régime qui essaye aussi de revenir sur des droits qu'ils avaient gagnés par rapport à Atatürk, notamment sur la question de la laïcité, qui est un sujet encore très sensible en Turquie. Enfin, ils ont de nouveau le droit de porter le voile à l'université ou au Parlement, ce qui était rigoureusement interdit avant, par exemple. Et alors que nous allions quitter la Turquie, le grand débat qui avait cours, c'était le Premier ministre à l'époque, qui était Recep Tayyip Erdogan, il voulait supprimer la mixité dans les logements étudiants et colocations étudiantes. Donc voilà, il y a Erdogan qui fait encore entendre parler de lui quand il a, par exemple, l'autre jour, il a fait une sortie où il a reproché aux femmes de rire trop fort. Donc voilà, il y a ce contexte politique particulier, ce grand questionnement avec la laïcité, qui en plus, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais doit s'aggraver avec la présence de Daesh aux frontières de la Turquie. Donc le problème kurde qui est assez peu visible à Istanbul parce qu'on y rencontre peu de Kurdes. Surtout, je serais bien incapable de différencier un Kurde d'un Turc dans la rue. Cependant, l'empreinte du conflit syrien était très présente puisqu'on croisait dans les rues beaucoup d'immigrés syriens. Qui faisaient la manche dans les rues et qui présentaient leur passeport syrien pour montrer qu'ils étaient bien syriens.
Quand tu y repenses, finalement, qu'est-ce que tu vois ?
Quand j'y repense, je vois des minarets. C'est une ville qui est bardée de minarets. C'est impressionnant quand on les voit d'avion. L'appel à la prière 5 fois par jour aussi, qui est très prégnant. Qui se mêle souvent vers midi et aux heures de l'Angélus, d'une façon générale, au bruit des cloches. Donc ça donne une ambiance particulière d'un point de vue sonore. J'en retiens également l'ambiance vraiment, vraiment conviviale, vraiment ville de province qu'on retrouve dans beaucoup de quartiers. Les bazars, notamment le bazar aux épices qui pour le coup est des paysans, c'est un très vieux bâtiment, ça sent les épices venues du monde entier. Le bazar aux poissons où chacun essaye de vendre le poisson qu'il vient de pêcher dans le Bosphore, le pont de Galata bardé de pêcheurs où j'ai moi-même essayé d'ailleurs d'y pêcher sans succès. De toute façon je pense que je n'aurais pas mangé le poisson. Voilà, vraiment une ambiance particulière. Dans une grande ville moderne, on retrouve une ambiance orientale qu'on retrouve pas ailleurs, du moins en Europe.
Nous écoutons à présent le morceau Istanbul de Bruce Bekvar.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Rennes 88.4 à l'écoute de Courant d'air, l'émission qui vous fait voyager. Merci de nous rejoindre. Je vais à présent vous présenter Hans, artiste peintre berlinois qui travaille notamment sur la linogravure. Son œuvre est particulièrement marquée par Groix, une île au large de l'Orient. Bonjour Hans.
Bonjour.
Alors merci beaucoup de ton accueil. Comment es-tu arrivé tout d'abord en Bretagne ?
C'était ungefähr in der Mitte der 70er Jahre.
Nous avons entendu parler de l'île de Groix à peu près au milieu des années 70. Un de nos amis était marié à une Française, originaire de Bretagne, qui connaissait Groix. On y allait ainsi une première fois et ça nous a tellement plu que depuis nous y sommes toujours retournés.
Und wir fanden es ganz toll und sind deshalb immer wieder hingefahren. Im Sommer.
Chaque année, en été, nous sommes toujours restés au moins de 6 semaines.
Comment ça a été au début l'aller ? Parce qu'en plus, vous êtes parti dans les années 70, c'était à l'époque du mur de Berlin, c'était pas si facile. Vous étiez dans la partie ouest.
Ja, Berlin war damals eigentlich eine Insel. Es gab die Mauer rundherum und es war.
À l'époque, Berlin était une sorte d'île. Il y avait le mur tout autour et c'était très difficile d'en sortir. On était systématiquement contrôlé et ça prenait quelques heures de passer la frontière.
Und so war es für uns. Et
c'était original pour nous de quitter une île pour une autre.
Oui, d'une île à l'autre, entre Groix et Berlin, c'est vrai que c'est original. Et comment vous êtes plu à l'île de Groix ? Comment a été l'accueil au début en Bretagne ?
Ja, die Jugendherberge, auf der wir gewohnt haben, war international. Das war also, es waren eigentlich.
L'auberge de jeunesse où l'on a habité était internationale. Nous n'y avons pas rencontré les habitants de l'île. Les premières années, nous avons eu peu de contacts.
In den ersten Jahren wenig Kontakt gehabt. Unser erster Kontakt war der Besitzer des Kinos auf der Insel. Das war für uns sehr interessant, weil er ein Kommunist war.
Le premier était le propriétaire du cinéma de l'île. Et c'était très intéressant pour nous, car il était communiste. À cette époque, à Berlin, ouest, il était interdit d'être communiste. On n'avait pas de travail si on le déclarait ouvertement. Et on trouvait ça super que là-bas, il y ait cette liberté de dire « je suis communiste ». Ça a duré un certain temps avant que l'on puisse nouer d'autres liens. Nous avions tenté d'acheter une maison, mais ça n'était pas possible, à cause de notre nationalité allemande. On n'a pas voulu nous la vendre.
Et du coup, de là est venu vos voyages réguliers sur l'île de Groix, toujours dans l'auberge de jeunesse, là où je vous ai rencontré. Et j'ai ce merveilleux souvenir d'enfance des bunkas qui ont été repeints, ce qui rend cette auberge de jeunesse tellement particulière. Et c'est toi qui as décidé de les repeindre en tant qu'Allemand. Tu as donné de la couleur aux traces du passé de la Seconde Guerre mondiale qui a beaucoup marqué l'île de Groix.
Also, die bunkas der Jugendherberge sahen schon etwas. Trostlos aus, so grau. Und nachdem wir einen Bunker bemalt hatten mit vielen Kindern.
Les blocos de l'auberge jeunesse étaient tout gris. Et après avoir repeint un premier blocos avec les enfants, on nous a demandé de tous les repeindre. Et pour ce faire, ils nous ont tous été repeints en blanc. Et que devions-nous repeindre sur ce blocos ? Nous avons alors rassemblé des peintres français, des caricaturistes, et les avons repeints tous ensemble.
Ausgesucht und die Bunker mit den Motiven dieser Leute dekoriert. Und das waren immer Projekte, Gemeinschaftsprojekte, die gemacht wurden. Und ich denke, es ist schon sehr schön.
C'était un projet communautaire et j'ai trouvé ça beau. On associait les blocos aux Allemands car ils les ont utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ont été en réalité construits en 1902, en prévision de la guerre.
Et du coup, depuis sur l'île de Groix, on trouve un peu de ta patte. Tu pratiques un art très particulier qui s'appelle la linogravure.
Ja, das war eigentlich eine der Ausgang, viele Kontakte zu bekommen zu der Bevölkerung, die Ausstellung von Bildern, die ich gemacht habe und von also Aquarellen und Linoldrucken.
L'exposition de mes tableaux, mes aquarelles et mes impressions lino ont été un moyen de nouer des bons contacts avec les gens. Au départ, j'ai surtout peint des aquarelles, puis j'ai fait des linogravures. dont je pouvais redonner facilement des impressions à beaucoup de gens.
Diese Linoldrucke geben kann. Und eine Besonderheit der Île de Groix, der Bretagne überhaupt für mich war.
Et une particularité de l'île de Groix, et je pense dans toute la Bretagne, c'était la vitesse du changement, de lumière et de couleur. Et lorsqu'on peint un paysage, on doit travailler très rapidement pour le représenter.
Da habe ich Linoldrucke benutzt, sozusagen, als eine.
C'est comme ça que je suis venu à utiliser la linogravure, comme un schéma sur lequel il n'y avait plus qu'à ajouter les couleurs. Ça m'a permis de m'adapter à ces changements si rapides de lumière qui ont pour moi été une expérience particulière. Et ça a beaucoup plu aux gens, qui ont beaucoup acheté ces impressions de linogravure. Et ça m'a fait très plaisir que mon travail plaise, surtout quand je me promène sur l'île et que je retrouve la plupart de mes œuvres exposé.
Gefällt und wenn ich also auf der Insel spazieren gehe und sehe, dass in den Häusern meine Drucke hängen.
Tu reviens en plus tout juste de la Bretagne parce que tu es exposé régulièrement dans plusieurs villes, notamment là c'était à Concarneau cette fois.
Ja, ich habe nun auch mehr Kontakte.
Oui, j'ai obtenu toujours plus de contacts grâce à ces impressions, car beaucoup de Français en bateau faisaient une escale sur l'île et ont acheté des toiles. Ils m'ont demandé si je ne pouvais aussi pas peindre et exposer ailleurs. J'ai donc commencé à le faire à Pont-Aven, à Concarneau, à Douarnenez, et maintenant je m'expose plus loin et travaille toujours plus sur le thème de la Bretagne.
Donc on peut dire que la Bretagne est pour toi un lieu vraiment d'inspiration. Qu'est-ce que t'évoque en général cette région?
Ja, das Besondere für mich an der Bretagne ist diese Küste, dass man sozusagen am Ende der Welt Finistère.
Ce qui est particulier pour moi en Bretagne, c'est la côte, pour ainsi dire au bout du monde, dans le Finistère. C'est important pour moi d'être près de la mer et aussi de voir un achèvement. Et bien sûr, les côtes sont particulièrement belles. Bien plus, je trouve que les côtes sud-atlantiques ou celles du nord, et bien sûr l'histoire aussi, proche des autres pays celtes, comme l'Irlande ou l'Écosse, qui se prolonge jusqu'en Amérique, où beaucoup de Bretons ont émigré.
Keltischen Ländern, wie man hat in Irland, Wales, Schottland und so weiter, und bis natürlich auch Amerika hin, wo ja viele Bretonen auch ausgewandert sind.
La façon dont les maisons ont été construites, son évolution dans le temps, je trouve tout ça passionnant. Et les traces de cette évolution, on peut encore aujourd'hui les reconnaître.
La Bretagne, pour toi, c'est beaucoup de paysages, énormément de beauté et puis une belle histoire. Mais ça n'a pas été une intégration facile en tant qu'Allemand au tout début, quand vous êtes arrivé.
Ja, es gab natürlich in dieser Zeit noch Spannung. Die Freundschaft, deutsch-französische Freundschaft, ist ja auch langsam gewachsen.
Oui, bien sûr, il y avait encore à cette époque des tensions. L'amitié franco-allemande s'est développée doucement. Dans les années 70, par exemple, quand il y avait des films au cinéma hostiles aux Allemands, si on trouvait une voiture immatriculée en Allemagne, elle pouvait avoir les pneus crevés.
An diese Beziehung zu verbessern, ist natürlich wichtig und das will man gerne, aber es auf politischer Ebene passiert da nicht so sehr viel.
Le travail pour améliorer les rapports est évidemment important et on l'encourage. Mais dans les domaines politiques, il ne se passe pas grand-chose. Et je pense que dans l'auberge de jeunesse, le travail qu'on fait là-bas, on ne le leur doit pas. Et aujourd'hui, aussi, il existe une association tenue par des amis entre les pays français et allemands, et notamment une association qui entretient la relation entre la Bretagne et la Saxe, qui n'est pas non plus soutenue par les autorités politiques. Il y a des partenariats entre certaines villes bretonnes et des villes en Saxe, et je peux y faire des expositions. C'est un moyen pour moi de contribuer au développement de l'amitié et de la collaboration entre nos deux pays.
Ich kann also auch Ausstellungen machen in den Städten in Deutschland, wie auch in den französischen Städten, und so kann ich auch da einen Beitrag bringen, dass man einfach mehr Freundschaften entwickelt und Zusammenarbeit schafft.
Tu vis vraiment entre Berlin et la Bretagne, entre Berlin et Groix. Tu te sens dans les deux nationalités, tu te sens un peu breton maintenant?
Je
ne me sens pas appartenir à une nationalité en particulier. Je me sens international.
Merci à Guillaume et Hans pour leur témoignage et en particulier à Cédric pour avoir prêté sa voix à Hans, lui-même étant originaire de Groix et travaillant à Berlin. Merci à DJ Bril pour la musique et à Enora, à Claude pour son soutien. C'était notre dernière émission avant la rentrée. Merci d'être toujours plus nombreux sur notre page Facebook. Retrouvez nos podcasts sur le site internet radiocampusrennes.com/émission/courant d'air. Nous nous quittons en musique sur la reprise de Trimartelot par le groupe allemand Santiano.
Sag mir, leb wohl mein Herz, tralala, la 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 la. Auch wenn der Abschied schmerzt, bleibe ich dir immer nah. Jetzt keine Träne mehr, tralala, la 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 la. Ich weiß, es fällt dir schwer, doch so schnell vergeht ein Jahr. Komm und sing dein Lied für mich, sing für meine Seele. Komm und sing dein Lied für mich, sing für meine Seele. Trimartelot, ja, wow, tralala, la 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 la. Trimartelot, ja, wow, wir wollen da reagieren. Trimartelot, ja, wow, tralala, la 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 la. Trimartelot, ja, wow, wir wollen da reagieren. Sing noch mal dein Lied für mich, sing für meine Seele. Sing noch mal dein Lied für mich, sing für meine Seele. Trimartelot, ja, wow, tralala, la 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 la. Trimartelot, ja, wow, wir wollen da reagieren. Trimartelot, ja, wow, tralala, la 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 la. Trimartelot, ja, wow, wir wollen da reagieren. Wir wollen da reagieren gehen. Wir wollen da reagieren. Wir wollen da reagieren gehen.
Sing ein letztes Mal für mich, sing für meine Seele.